France Musique. Les grands entretiens, Jean-Baptiste Urbain, France Musique.
Anne Sylvestre, née le 20 juin 1934 à Lyon 6e, chanteuse de variété, fière de l'être.
J'ai perdu mon enfance, j'étais pleine de piquants. À 15 ans, faut que l'on danse. Ils ne prenaient pas de gants. Ceux qui m'ont vu triste, triste, esquissaient mes premiers pas. M'aventurer sur la piste, cela ne m'aidèrent pas. J'aurais pour qu'on m'apprivoise, pour qu'on me tende la main. Cueilli toutes les framboises dans les tout petits chemins. Mais on avait, je suppose, bien d'autres chats à fouetter. Accueillir bien d'autres roses que mon églantier. J'étais pas la plus moche ni la moins futée, mais j'avais la caboche pas bien rabotée. J'étais pas la moins tendre, mais j'avais si peur qu'on ne veuille pas m'attendre à l'autre coin d'un cœur.
Anne Sylvestre,
oui,
vous nous avez raconté à la fin des années 50 les premiers cabarets.
Oui.
Comment vous devenez Anne Sylvestre? Années 60, il paraît donc un premier 25 cm, et puis
oui.
Il va y avoir cette époque Philips.
Oui, j'ai fait, tant que Canetti a été là, ça a été très très bien.
Vous étiez libre?
Oui, complètement. Je faisais les chansons que je voulais, j'enregistrais ce que je voulais enregistrer. Et la Canetti, moi je ne le remercierai jamais assez pour... En plus, j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, qu'on avait voulu me virer au bout d'un an et qu'il m'avait maintenu en disant non, non, elle reste. Bon. Alors une fois qu'il a été parti, bien sûr, ça s'est gâté, je vais faire court. Je suis resté 3 fois 3 ans, quand même. Mais quand j'ai voulu partir, on m'a fait un procès que j'ai perdu, que j'ai payé.
Et puis les cabarets, c'est fini, viennent les premières scènes.
Ben c'est ça, oui, le cabaret, ça a un temps, et puis après, mais c'était les maisons de jeunes, c'était des comités d'entreprise. Je chantais aussi pour l'UNEF, c'était des choses qu'on nous proposait. Quoi. Et simplement, quand je suis passé à Bobino, enfin passé à Bobino avec 3 chansons, en première, toute première partie, en levée de rideau, d'un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Claude Pascal, qui chantait super bien, et qui a été très bienveillant, très, très sympathique, vraiment. Et la même année, donc, quelques mois après, je suis passé toujours en levée de rideau, on appelait ça levée de torchon, bien sûr, dans un spectacle de Gilbert Bécaud à l'Olympia, pendant 6 semaines. C'était une chance énorme. Pendant 6 semaines, il m'a jamais dit bonjour, mais ça, c'est pas le même genre. Et là, ça a été, bon, je chantais, oui, 4 chansons. Monsieur Cocatrix voulait que j'en chante 3, j'en ai toujours chanté 4. Il me courait après, il me dit, Anne, 3 chansons, non, 4. Et pour dire dans quel état j'étais, le jour de la première, je me suis enfermé dans la loge et j'ai dit, j'irai pas, je veux pas mourir. Et on m'a envoyé ma sœur frapper à la porte. Non, non, j'irai pas. Puis ensuite, Anne, il faut y aller. Alors, j'ai chanté quand même mes 4 chansons. C'était formidable, ça s'est très bien passé. Cocatrix m'avait dit, Anne, vous allez voir, au cachet, vont s'envoler. Et pendant, c'était en fin de saison, et je sais ce qui s'est passé pendant l'été. Et à la rentrée, ça a été, tout le monde était évacué, c'était les yéyés. Et il n'y avait plus que ça, c'est-à-dire au lieu de venir en plus, tous les gens de ma catégorie, en fait, ont été jetés. Alors, moi, j'avais un tout petit peu passé le nez, donc je me suis accroché. Mais ça a été très, très, très cruel, cette histoire. Et il y a eu même, je le garde, mais ça me fait plutôt rire, il y a eu un journaliste qui a dit... Françoise Hardy, c'est une Anne Sylvestre, mais qui swing.
Si je remonte au long des mailles qui ont pêché mes souvenirs, je sens bien que vaille, c'est dur de se redevenir. Et je revois la triste Lette qui se noyait dans un chagrin, osant à peine dire faites 3 tours dans mon jardin.
Puis les cabarets ont fermé, puis enfin bon. Alors, Il y en a qui se sont recyclés et puis d'autres qui ont fait autre chose.
Et vous avez continué à,
ben moi, oui.
à chanter et à, ah oui. à sortir des albums.
Ah oui.
Où vous étiez toujours Anne Sylvestre accompagnée de votre seule guitare ou vous commenciez à...
Non, j'avais un contrebassiste qui était mon mari d'ailleurs. Ça, on le disait pas.
Jamais de piano ?
Non, pas... non, non. Beaucoup plus tard. Quand j'ai déposé la guitare, là, oui. Mais non.
Vous avez eu aussi un mari pianiste ?
Oui, le premier, oui. Oui. Mais il m'a jamais accompagné. Tout se sait. Ben, c'est pas des choses qu'on disait non plus. Hein. Il y avait une espèce de discrétion, c'est bizarre.
C'est quelque chose qu'on vous a reproché ou, je sais pas, les maisons de disques, les attachés de presse, de ne pas faire des histoires sur sa vie.
Quand je suis arrivé chez Philips, j'étais donc vraiment, oui, débutante. Il y avait deux attachés de presse. Ils n'ont pas su comment me prendre, comment promouvoir une... Bon, j'habitais la grande banlieue, j'avais un bébé. Donc, ils ont lancé cette légende que je n'aimais pas les journalistes et que j'avais un mauvais caractère. Comme on ne savait pas comment me présenter, comment parler de moi, j'avais pas des amants, j'avais pas des protecteurs, j'avais pas des bijoutiers, des machins. Je veux dire, j'étais... Bon, voilà, je faisais des chansons, moi.
Parce que vous ne souriez pas sur la pochette ?
Oh ben oui, ça. Mais j'ai jamais aimé être photographié, donc. Mais à Gainsbourg, on lui a pas dit non plus. Il a mauvais caractère, il sourit pas, quoi. C'est... Et puis ben, quelquefois, j'avais aussi des raisons de faire la gueule sur les photos. Il y a pas de. Hein.
Ces années-là, Anne Sylvestre, il y a plusieurs albums qui sortent.
Oui, ben, il y en a beaucoup.
Comment ouais. Votre écriture musicale évolue-t-elle ? Parce qu'on l'entend entre les toutes premières chansons, ensuite...
Mais il y a eu la rencontre avec François Robert, pour ce qui est des arrangements, en tout cas. Alors, dans mes premiers 45 tours, il y a eu quelqu'un qui était un guitariste qui s'appelait Barthélémy Rosso, Mimi Rosso, parce que c'était un très excellent musicien. Mimi Rosso a fait quelques arrangements. C'était des arrangements très très simples, guitare contrebasse sur mes premiers disques. Et un jour, ben, c'est quand j'ai écrit Lazare et Cécile. Mimi Rosso m'a dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un que je crois vraiment très très bon pour arranger cette chanson. Et c'était François Robert. Et à partir de là, ça a duré 30 ans. Hein.
Que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit, et que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. Savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de ce Lazare sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile...
Quand j'avais ma série de chansons, je mettais ça sur une cassette. Et j'allais trouver François, je lui faisais écouter. Et à partir de là, il me disait, tais-toi, laisse-moi écouter les paroles. Pour un arrangeur, c'est pas mal. Et c'est vrai. Ensuite, on décidait, il me proposait des instruments, il me proposait... Et quand ensuite j'arrivais en studio, en effet, c'est... J'ai jamais eu à contester, quoi. Mais il y avait toujours de la guitare, toujours.
Ils puisaient dans tout l'orchestre ?
Oui, on se mettait d'accord, oui. Il y avait des cordes, il y avait des cuivres, il y avait presque toujours du piano, il y avait beaucoup de guitare, il y avait... par exemple, le hautbois, il aimait beaucoup, et puis moi j'aimais ça aussi. Mais à un certain moment, on s'est dit que ça connotait quand même, bien sûr. Et lorsque, bien plus tard, j'ai lui demandé conseil pour mes musiciens de scène... Je voudrais bien un autre instrument, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'avait dit, ah, prends la clarinette, c'est moderne. Il n'y a pas de connotation ancienne ou folklorique, comme on peut l'avoir avec le hautbois, parce que c'est magnifique le hautbois, et j'ai eu des partitions extraordinaires avec ça.
Est-ce que c'est ce bois, ces arrangements qui pouvaient donner une coloration bucolique qu'on a un peu
Oui,
mise
c'est
sur
sûr,
vous,
bien sûr.
qui peut s'expliquer aussi par les pochettes, où on vous voit dans la campagne,
Ah oui,
sur
mais attendez, c'était les
l'herbe?
années 60. J'ai été sauvé par les robes longues, brodées, etc. Parce que je m'emmerdais. Moi, je voulais pas. J'ai jamais voulu avoir la petite robe noire. Ça, c'était rédhibitoire. Je voulais pas. Donc, je savais pas. C'était difficile s'habiller sur scène. Mais quand ensuite ça a été les trucs brodés, les robes du Guatemala, les trucs indiens, bien sûr. D'ailleurs, j'ai dans une de mes dernières chansons qui s'appelle Les calamars à l'harmonica, je parle de toute cette ambiance-là et j'entends des rires dans la salle. Il y en a qui se reconnaissent, c'est très drôle. Mais je dis souvent, et je le pense, c'est qu'on a pris l'emballage pour le cadeau. On jugeait l'extérieur, mais on n'écoutait pas ce que la chanson disait.
Donc une ambiguïté,
Comme je
un
disais,
malentendu.
je suis pas frontal. J'écris quoi. C'est des chansons. C'est pas des manifestes. C'est pas des discours. C'est pas. Je parle par métaphore. Par image. Par histoire. Moi, je veux que ce soit des histoires. Je vais pas dire, ah oui, ben c'est comme ça, c'est pas bien, machin. Non, c'est quelqu'un là, Lazare et Cécile, c'est quelqu'un. Lazare et Cécile, c'est deux jeunes gens c'est un fait divers que j'avais lu, et deux jeunes gens qui avaient été poussés au suicide par tout un village qui les pourrissait, quoi. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je veux qu'il y ait une autre fin à cette histoire. C'est pour ça que j'ai écrit la chanson. Parce que, non, là, ils partaient, puis ils avaient leur enfant.
Lorsqu'ils ont couru ensemble, le vent leur fit un manteau. Moi qui ne dormais pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement, que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement.
La vague yéyé, ça vous a remis en question?
Non, je sais faire que ça. Alors, oui, il y a un chapitre qu'il faut ouvrir à ce moment-là.
Je sais pas.
Ben, si, c'est les fabulettes. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que les fabulettes, je les ai écrites tout le temps, en même temps, en parallèle. J'ai pas eu ma phase. Ah, il a été écrit, par exemple, déçu par les adultes, et s'est tourné vers les chansons pour enfants. Oh, et oh, faut pas exagérer quand même. J'ai toujours fait les deux. Les fabulettes m'ont fait vivre. Parce que les autres disques, c'est fluctuant, c'est quelquefois ça se vend pas, quelquefois ça se vend mieux, etc. Ce n'est jamais constant. Tandis que les fabulettes, ça a suivi une courbe ascendante et j'en ai vendu beaucoup. J'ai toujours eu l'impression d'être un pommier qui porte deux sortes de pommes. Il y a les pommes pour les grands, puis il y a les pommes pour les petits. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé raconter des histoires aux enfants, etc. Alors, il y a aussi un côté légende qui dit que j'ai écrit les premières quand ma fille aînée était dans son berceau. Oui, c'est vrai que j'avais du temps là. J'ai eu du temps pendant quelques mois quand même, ce qui fait que, en effet, j'ai écrit ce que j'ai appelé des fabulettes. Je suis contente d'ailleurs parce que c'est pas bête. Comme titre, c'est joli. Et j'ai écrit un premier petit paquet de fabulettes chez Philips. Il a fallu que je les supplie pour pouvoir les enregistrer parce que ça intéressait pas. Ils avaient déjà un catalogue avec les chansons populaires, les Fables de La Fontaine et les Contes de Perrault, etc. Donc, on a bien voulu me faire enregistrer un petit 45 tours de Fabulette. Je cite quand même ce détail, c'est qu'on m'a, pour que j'enregistre cette chose-là, on m'a fait consentir à une demi-royalty. Ah bah oui, ça coûtait cher.
Ça veut dire quoi?
Que si je voulais enregistrer ça, il fallait que j'accepte de toucher la moitié de ce qu'on me devait. Voilà. Ah oui. Parce qu'il fallait une pochette avec des dessins. Enfin bon. Et ça a été donc pendant un certain temps, pendant un an ou deux, quelque chose comme ça. Ça existait, quoi. Et puis, en tournant un peu partout, j'ai commencé à rencontrer des instits qui m'ont dit, mais faites-en d'autres, on en a besoin, on aime ça, c'est bien. J'ai dit, oh, bon. Donc, j'ai réécrit quelques fabulettes. Et puis, j'avais une amie qui était directrice de maternelle et qui m'a dit, mais tu sais, il faut que tu fasses tes disques avec un thème. Par exemple, cette année, tu voudrais pas parler des poissons et de la mer et tout ça. Et j'ai donc commencé à faire des chansons sur des thèmes différents. Il y a eu Noël, j'ai eu Joyeux Noël, il y a eu les fabulettes à manger, il y a eu l'école, il y a eu la ville, il y a eu vraiment fabulettes marines aussi, etc. Bon. On m'a demandé pourquoi vous écrivez des chansons pour les enfants. Alors j'avais deux réponses qui étaient une pour lutter contre la crétinisation. J'avais pas tort. Et la deuxième qui s'est révélée tout à fait vraie, c'est je me prépare un public.
Ils ont au fond de leur mémoire une tortue, un hérisson et une balle en balançoire, une grenouille, un petit maçon. Ils se souviennent aussi peut-être d'un veau avec de drôles d'idées, d'une maison pleine de fenêtres et d'un renard très enrhumé. Les rescapés des fabulettes, les amoureux de la petite Josette, ceux qui montaient dans mon bateau même qu'il était pas beau. Les rescapés des fabulettes de toboggan en bicyclette, adorer le petit sapin même s'il piquait les mains. Moi j'étais la dame qui chante à l'école et à la maison, quand je faisais, ça m'enchante, partie des meubles du salon.
Les grands entretiens d'Anne Sylvestre, France Musique.
C'est pour ça que j'ai écrit Les rescapés des fabulettes, oui. Mais j'aurais une immense reconnaissance et c'est, alors de temps en temps il y en a qui arrivent qui disent ah tu as rescapé, c'est magnifique parce que vraiment ça a été une aventure très chouette quoi. Mais alors il y a aussi évidemment un gros bémol, c'est que moi j'ai continué, j'ai fait 18 albums de fabulettes,
près de 300 chansons.
Oh facile, oui. Le dernier, c'était Fabulette à lunettes et la petite Josette, bien sûr, la fameuse petite Josette, la chérie des maternelles. Et même, il y en a qui frisent un peu le répertoire adulte, mais enfin, j'ai jamais voulu mélanger, j'ai jamais voulu les chanter sur scène. Et puis, alors, il y a aussi un sujet de déception, c'est que énormément de gens, et beaucoup aussi dans le métier, me voient comme une chanteuse pour enfants. Et ils ne savent pas, ils n'essayent pas de savoir que j'ai écrit autre chose. Alors ça quand même.
C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez que c'était avant tout financier.
Mais fin... non, mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. Vous savez, il y a aussi ça, les légendes, on me dit, ah oui je sais, vous n'aimez pas quand on vous parle des fabulettes. Comment? Mais si! Vous n'aimez pas les fabulettes, je les aime pas, mais bon sang de bois, quand même, si je serais ingrate si je les aimais pas. Et c'est, ça a été, oui, ça a été alimentaire, mais c'était un bonheur. Ça a été un bonheur. Puis j'ai eu mes enfants qui chantaient avec, des copines, des copains. On faisait des enregistrements le jeudi ou le mercredi. Enfin, ils venaient faire les chœurs. Moi, j'aimais pas les chorale, c'est toujours un peu compassé, un peu... Alors j'avais fondé un groupe qui s'appelait les Bécasses, et c'était bon, mes filles, leurs copines, la fille de François Robert, la fille du comptable, enfin bon... Et c'est, on s'amusait beaucoup, et elle chantait très bien.
François Robert qui s'en donnait à cœur joie d'ailleurs dans les arrangements des fabulettes.
Ah oui, ah ben oui. Bien sûr.
Vous en avez enregistré ici au studio Ferber ou
oh, j'en ai fait ici, oui, oui, oui. Puis avant, c'était un studio de l'abbé Grégoire qui n'existe plus. Non, mais on s'est beaucoup amusé. Mais je voudrais pas quand même qu'on garde de moi uniquement l'idée de chansons pour enfants. Je pense que j'ai écrit des choses importantes.
Dans les familles, on vit ensemble et bien souvent. On peut se dire qu'on ressemble à ses parents, ou bien qu'on ne ressemble à personne, mais qu'on rappelle de très loin une arrière-grand-mère bretonne, ou bien un grand-père.
africain. Café au lait, café au lait.
Et qu'est-ce qui intéresse ces enfants?
Tout. Je sais pas, tout. Un papillon. Des nouilles. J'ai fait un tube, hein, qui s'appelle Des nouilles.
Vous dites ça, mais il y a aussi dans ces chansons, vous instillez des façons non dites, comme toujours
chez
vous.
Mais oui, mes valeurs, bien sûr.
Des messages de tolérance, de la morale.
Évidemment, évidemment.
Quand vous chantez « Tous les enfants sont faits de lait ».
Café au lait, en effet. Oui, merci de la citer. Ben oui, bien sûr. Et il y a une chanson qui s'appelle « Berceuse pour rêver » aussi. D'or, Séraphine, tu seras marine. Qui dit aussi « c'est les rêves qui font grandir les enfants ». Mais bien sûr, toutes mes valeurs sont là-dedans, bien sûr, je ne suis pas différente. Ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal qui passent facilement d'un répertoire à l'autre.
Que ce soit dans les chansons pour enfants ou pour adultes, je ne sais pas, Roméo et Judith, Xavier, pourquoi il y a tant de prénoms dans vos chansons?
Parce que tout le monde a un prénom. Je ne sais pas, moi, c'est une des premières choses qu'on fait quand on est enfant, c'est comment tu t'appelles. Ben, comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle Roméo, je m'appelle Cécile, je m'appelle Richard, je m'appelle Xavier, je m'appelle... Xavier, c'est une histoire vraie. Un garçon, un petit garçon qui s'appelait Xavier, donc... Voilà. À qui on a voulu interdire l'ours en plus. Une amie qui m'a raconté ça une fois, elle avait son deuxième enfant et puis son petit Xavier qui était petit, il jouait avec un ours et il le longeait, il le berçait, etc. Et des amis lui ont dit horrifié, mais enfin, mais tu es folle, il faut pas laisser faire, il va pas être viril. Alors on lui a donné une auto et il a longé l'auto.
Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avanie son permis. Ses sentiments pour son auto sont normaux. Tous ne peuvent pas en dire autant. Bien souvent, vous voyez, tout finit par s'arranger.
Est-ce que Anne Sylvestre, la compositrice, de la même façon, elle compose ou elle tisse des lignes mélodiques qui sont les mêmes pour les enfants?
Quand j'écris une musique, enfin quand je compose une musique, elle est faite pour ce texte-là. C'est-à-dire que selon le texte, la musique est. Par exemple, on n'écrit pas une musique pareille sur un alexandrin que sur un texte de six pieds, où la musique est dirigée par le texte et il faut que ça aille. Autant je suis capable d'expliquer ce que j'écris, pourquoi je l'écris, autant la musique, pour moi, c'est, ça vient.
Mais c'est pour ça que vous évoquiez dans une précédente émission Colchic dans les prés.
Oui.
Dont on peut croire que c'est une chanson populaire, et en fait, non. On peut, sur certaines de vos chansons, avoir aussi ce sentiment-là de naturel, comme si c'était une chanson populaire.
Bien sûr.
C'est peut-être même votre intention.
Je ne sais pas si c'est mon intention, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et je sais si ça va ou si ça ne va pas. Enfin, c'est... Il faut que la musique aille aux paroles. J'ai toujours la musique dans la tête pendant que j'écris le texte, donc ça...
Il n'y a pas l'un d'abord et l'autre ensuite?
Non, non, c'est rare ça, c'est très très rare. Il y a au moins une ébauche. Quelquefois, après, je l'enrichis. Mais... Non, il y a une idée déjà de la musique.
Dodo, petit vampire, la vie pourrait être pire. La vie, mes sangsues, que de moi avait reçu. La vie vient et puis s'en va. V-I-E-N-T-V-A, à épeler comme ça. C'est facile, on pense pas.
dodo, mais vorace, tout mon bien, toute ma race, près de vous, mais féroce. Attila n'était qu'un gosse, la vie passe, passera. P-A-2-S-E-R-A, la vie que l'on a, on la donne, il reste quoi? Dodo cannibale, je suis comme votre balle, je viens et je roule entre vos mains tendres goules. La vie ne rembourse pas les nuits blanches, les coups bas. La vie, c'est peut-être ça. On vous mange et on s'en va. Dodo, mes barbares, en vous déjà se prépare la minuscule graine qui s'étendra souveraine, qui demain vous mangera. L'amour, c'est peut-être ça. Tout ce qu'on a dans le cœur ne vaut pas la moindre fleur. Dodo, petit vampire, ça serait tellement pire de n'avoir personne. P-E-R-S-O-2-N.
Berceuse au petit vampire, une chanson d'Anne Sylvestre parue en 1973. Merci à Yann Fressy à la prise de son, à Benjamin Vignal pour le mixage, à Flora Sternadel pour la préparation et à Marie Groux pour la réalisation de cette émission. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.